Il est midi et demi sur France Culture avant de vous retrouver pour la deuxième partie de la Grande Table. Place aux informations. Avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Éric Woerth, député LR de l'Oise, ancien ministre du Budget, élu président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, un poste qui revient traditionnellement à l'opposition. Marielle de Sarnez, elle désignée à l'instant présidente de la Commission des Affaires étrangères, reportage de Stéphane Robert dans un instant. Emmanuel Macron ne donnera pas d'interview télévisée le 14 juillet. À l'Élysée, on explique que la pensée complexe du président se prête mal au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Commentaire d'Antoine Marette. Le gouvernement qui a donné hier le coup d'envoi de cette réforme du Code du travail, le syndicat Force ouvrière notamment, envoie toujours des signaux positifs. Explication avec Thomas Séchier. Le décret anti-immigration de Donald Trump entre en vigueur aujourd'hui. Principe général, c'est que l'administration américaine va exiger des ressortissants de 6 pays musulmans et de tous les réfugiés qui sollicitent un visa d'entrée aux États-Unis qu'ils justifient de la présence sur le sol américain d'un membre proche de leur famille. Précision avec Nadine Epstein. À quelques heures après avoir été officiellement inculpé d'abus sexuels par la justice australienne, le préfet du secrétariat pour l'économie du Vatican, le cardinal George Pell, clame ce matin son innocence. On ira à Rome retrouver Mathilde Imberti. Et puis on reparle du rôle de la France au Rwanda pendant le génocide. Trois associations annoncent qu'elles déposent une plainte avec constitution de partie civile, visant BNP Paribas, notamment pour complicité de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Enquête de Benoît Colomb. Dans cette édition, l'invité de la séquence interview, Jean-Marc Chardon, reçoit Guillaume Kérou, qui est chef d'entreprise, auteur de « Tous indépendants » aux éditions du Cherche Midi. Et voici la bataille de l'Assemblée nationale maintenant sur le thème de savoir où se trouve véritablement l'opposition. Les députés qui soutiennent la majorité sans vraiment faire partie de cette majorité peuvent-ils être eux-mêmes qualifiés d'opposants? C'est toute la question. Il y a eu un premier test hier de cette domination de La République En Marche dans l'Assemblée recomposée, la répartition des postes clés qui a donné lieu à une bataille entre groupes d'opposition. Ainsi, le LR dit constructif, Thierry Solaire, a été largement élu questeur avec les voix de La République République En Marche aux dépens d'Éric Ciotti, LR canal historique, comme on dit, par un scrutin à bulletin secret, ce qui a déclenché la colère du patron du groupe LR, Christian Jacob.
C'est un déni de démocratie au sens où ça n'existe nulle part ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas une démocratie moderne où l'opposition n'a plus de droits. Et où la majorité choisit son opposition en fonction d'un critère de docilité. On respecte les électeurs. Monsieur Solaire, regardez ses tracts, ses affiches, a appelé à ce que le président Macron ait une majorité. Il a fait toute sa campagne législative là-dessus pour qu'il ait une majorité. Il a annoncé qu'il votait la confiance. Il est clairement dans la majorité. Donc arrêtons ce marché de dupes, de dire on se déclare dans l'opposition pour pouvoir rafler tous les postes. C'est de la médiocrité, c'est des petites magouilles, des courbines. Il faut se sortir de ça. Je fais confiance au président de la République, au président de notre Assemblée, pour trouver les solutions de façon à ce que l'opposition soit respectée, comme ça a toujours été le cas auparavant. C'est toute l'histoire de la Ve République.
Voilà, quelle opposition à l'Assemblée. Christian Jacob avec sur France Info. Pour le poste de président de la Commission des Finances, qui est selon le règlement même de l'Assemblée réservé à un député membre de l'opposition, il y avait ce matin encore deux candidats, Éric Woerth d'une part pour les Républicains canal historique et l'UDI Macron compatible, Charles de Courson notamment. Le groupe En Marche cette fois s'est abstenu et là, Stéphane Robert, c'est bien Éric Woerth qui a été élu.
Oui, cette fois c'est le candidat du groupe Les Républicains, Éric Woerth, qui a été élu et ça s'est fait, vous l'avez dit, parce que les membres de la Commission des Finances appartenant au groupe La République En Marche, ont eu pour consigne de s'abstenir, ce qu'ils ont fait sans exception aucune. Du coup, le scrutin s'est joué entre les autres députés. Et comme les Républicains sont les plus nombreux, en tant que principal groupe d'opposition, c'est Woerth qui l'a emporté. Et puis on a aussi un poste de vice-président de la Commission des Lois, qui de la même façon a été attribué à un député LR ce matin, le député de la Manche, Philippe Gosselin. Mais ce sont des exceptions qui confirment la règle, ou plutôt des exceptions qui confirment le bousculement de toutes les règles en vigueur. Puisqu'on a l'impression depuis hier que pas grand-chose n'est respecté malgré un règlement de l'Assemblée qui prévoit l'octroi d'un certain nombre de postes à l'opposition, notamment les postes de contrôle et de surveillance de ce qui se passe au Palais Bourbon, en contrepartie du pouvoir législatif dévolu par la force des choses à la majorité.
Vous avez passé donc la journée à l'Assemblée hier, Stéphane Robert, comme souvent. Est-ce que vous avez l'impression que le climat a changé véritablement?
Oui, Déjà parce qu'il est assez surprenant et assez lourd de sens d'observer le comportement des 300 et quelques députés du groupe La République En Marche, groupe qui avec le Modem compose ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Ils arrivent en groupe et ils repartent en groupe, tous ensemble, les uns derrière les autres. Il y a autour d'eux un certain nombre de personnes qui leur disent quoi faire, qui leur disent où aller. Et ils se montrent très assidus pour ce qui concerne leur présence dans l'hémicycle. Ah non, 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 je peux pas vous parler là, il faut que j'aille en séance. Vous me direz, c'est normal, ils découvrent. Mais on ne peut cependant que constater que se met en place un comportement assez moutonnier depuis deux jours. Alors hier, ça s'est traduit par un vote en faveur de Thierry Soler pour le poste de questeur. On ne leur avait rien dit, du coup, ils ont voté pour lui, puisqu'il est presque en marche. Ce matin, on leur avait dit pour la commission des finances, non, 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 cette fois vous abstenez, et ils se sont abstenus. Résultat, c'est Woerth qui a été élu. Mais là où l'on voit qu'il y a un véritable interventionnisme de la part de l'Élysée sur ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, vous aurez peut-être l'impression que c'est un détail, mais vous savez comme moi que le diable se cache dans les détails. C'est entre autres pour le poste de rapporteur de la commission des finances. Les équipes dirigeantes d'En Marche avaient décidé que ce serait un député qui s'appelle Joël Giraud. Or, on n'avait rien dit aux marcheurs au moment du vote pour sa désignation. Et ils en ont investi un autre, Laurent Saint-Martin, un tout jeune qui leur paraissait faire l'affaire. Aussitôt, Emmanuel Macron a envoyé un message à Richard Ferrand, le président de groupe, pour lui passer un savon. Ça, c'était hier. Et ce matin, plus question de Laurent Saint-Martin, c'est Joël Giraud qui, in fine, a été désigné rapporteur de la commission des finances. Voilà, si vous êtes en marche à l'Assemblée, vous êtes prié de marcher droit. Et si, au bout du compte, quelques places sont ici ou là accordées à l'opposition, tout reste scruté et organisé de façon millimétrée. D'ailleurs, on ne sait plus vraiment, en dehors des extrêmes, qui est réellement dans l'opposition ou plus ou moins soutien de la majorité. Et on a l'impression que le macronisme, tel qu'il est en train de s'organiser, a tendance à vouloir être une totalité qui ne s'accommode d'une opposition que divisée, morcelée, marginalisée.
Stéphane, Robert, merci beaucoup pour cette analyse et ces éléments de contexte. Il y a un autre signe aussi de cette volonté présidentielle, c'est la décision confirmée hier d'intervenir lundi prochain devant le Congrès réuni à Versailles. C'est la veille du jour où le Premier ministre prononcera à l'Assemblée son discours de politique générale et pour le député LR Guillaume Larrivé, il s'agit d'une faute politique. Nous ne sommes pas dans un régime impérial, affirme-t-il, où il s'agirait d'aller applaudir le nouveau prince qui s'exprimerait devant nous en toute irresponsabilité. Il n'y a pas du tout d'effacement du Premier ministre, assurait de son côté ce matin le député La République En Marche, Gilles Legendre, qui était interrogé sur Public Sénat.
Je ne vois pas du tout un effacement du Premier ministre. Le Premier ministre est venu à deux reprises rencontrer les députés de La République En Marche durant le week-end dernier. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un Premier ministre effacé. La seule chose, c'est que chacun est à sa place. Le président de la République a décidé de réunir le Congrès pour s'adresser à l'ensemble de la représentation parlementaire, probablement pour cadrer de façon stratégique la manière dont allait se dérouler le début de ce quinquennat. Et puis le lendemain, le Premier ministre fera une déclaration de politique générale qui permettra de rentrer dans les détails.
Voilà, explication donc de Gilles Legendre de La République En Marche. Le président majoritaire à l'Assemblée, le président qui assume donc sa prééminence dans le couple exécutif, le président qui maîtrise aussi sa communication. Il rompt avec une tradition qui a été instaurée par l'ancien président Giscard d'Estaing. Emmanuel Macron ne va pas donner de fameuses interviews télévisées le 14 juillet à midi après le défilé. Il y aura eu, selon son entourage, d'autres occasions de s'exprimer pour le chef de l'État, notamment donc le 3 juillet devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. À l'Élysée, on explique par ailleurs que la pensée complexe du président se prête mal au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour.
Alors que veulent dire précisément les communicants de l'Élysée en parlant de pensées complexes qui ne rentreraient pas dans les canaux traditionnels de la presse?
Eh bien, visiblement, les journalistes ne sont pas à la hauteur de la complexité intellectuelle du chef de l'État. Sous-entendu, ils sont à la recherche de l'anecdote, ne s'intéressent pas au fond et sont dans l'incapacité de respecter la solennité avec laquelle Emmanuel Macron entend exercer son mandat. Alors l'anecdote chez les journalistes, ça existe. L'inflation des chaînes d'information continue n'a sans doute rien arrangé à l'affaire. Il faut alimenter la machine en direct dans un contexte très concurrentiel. Le développement de l'infotainment non plus, des émissions comme Le Petit Journal ou Le Quotidien, ont fait de l'anecdote un fonds de commerce, à une certaine époque pas si ancienne d'ailleurs. Emmanuel Macron n'était pas le dernier à répondre aux sollicitations de ces émissions. Ce journalisme anecdotique existe, ou plutôt il coexiste avec un journalisme plus classique. Et l'interview du 14 juillet était un vestige de ce journalisme plus classique. Il y avait une certaine solennité dans cette tradition. La plupart du temps, le chef de l'État recevait à l'Élysée les journalistes qu'il choisissait lui-même. Ça, c'était l'aspect le plus contestable de l'exercice. Mais la longueur de l'interview, parfois plus d'une heure, cette longueur donnait de la place à cette fameuse complexité tant recherchée par Emmanuel Macron et laissait parfois également la place à des moments de vérité, comme en 2004, lorsque Jacques Chirac taclait son ministre des Finances, Nicolas Sarkozy.
Il n'y a pas de différend entre le ministre des Finances et moi, pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action des trois années à venir.
Alors cette interview aurait peut-être permis à Emmanuel Macron de s'expliquer avec moult détails sur la future réforme du Code du travail ou sur l'invitation de Donald Trump. Mais Emmanuel Macron, président, préfère le discours à l'interview. C'est sans doute un aspect de sa vision jupitérienne du pouvoir.
Antoine Maretz, merci beaucoup. Effectivement, le gouvernement a donné hier le coup d'envoi de la réforme du Code du travail. Le projet de loi d'habilitation aborde notamment trois grands domaines. La redéfinition de la place des accords de branche par rapport aux accords d'entreprise, la simplification du dialogue social avec la fusion des instances représentatives du personnel et puis la mise en place d'un barème qui va encadrer les indemnités prud'homales. On invente la rénovation de notre modèle social adapté aux enjeux de notre pays, expliquait hier la ministre du Travail Muriel Pénicaud, présenté au départ comme un texte qui voulait aller au-delà de la précédente réforme qui avait suscité, on s'en souvient, une très forte contestation. Et bien cette réforme commence apparemment sous de bons auspices puisque notamment le syndicat Force Ouvrière, qui joue un peu le rôle pivot parmi les syndicats dans la discussion sociale, continue d'envoyer des signaux positifs. Thomas Séchier, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Alors, est-ce que ce sont les syndicats qui reculent sur ce texte ou est-ce que c'est le gouvernement qui met un peu d'eau dans son vin ?
Si on se basait sur les grandes lignes du projet du candidat Macron et des éléments qui avaient fuité dans la presse ces derniers jours, on pouvait s'attendre à un renforcement clair des accords d'entreprise. Là-dessus, clairement, le gouvernement lâche du lest. Il y aura bien de la négociation au sein même des entreprises, mais en même temps, les accords de branche seront eux aussi renforcés. C'était une demande des syndicats. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a bien compris. Alors comment le gouvernement s'y prend-il pour ne froisser personne ? Eh bien en jouant avec trois niveaux de négociation, il y aura des domaines exclusivement négociés au niveau des branches, d'autres au niveau des entreprises, mais il y aura une troisième catégorie de thèmes qui pourront être négociés par les syndicats et le patronat, mais ce ne sera pas une obligation. Exemple, le recours au CDD ainsi qu'au CDI de chantier que le gouvernement veut développer. Si les partenaires sociaux ne tombent pas d'accord sur les modalités, c'est le cadre fixé par la loi au-dessus qui continuera à s'appliquer. Ça, les syndicats en faisaient une condition sine qua non. À l'inverse, s'il y a un blocage sur les questions de pénibilité, la négociation se fera en dessous, directement en entreprise, ce que souhaitent les patrons. C'est une sorte de souplesse à géométrie variable et cette démarche d'équilibriste, un pas vers les entreprises, un pas vers les syndicats, évite de se les mettre à dos à défaut de les satisfaire pleinement, en tout cas pour l'instant, car plus on connaîtra le détail du projet, dont la philosophie est clairement favorable aux entreprises, et bien plus il y aura le risque évidemment de créer du mécontentement.
Merci beaucoup Thomas Séchier. À l'instant, on apprend que Emmanuel Macron publie sur Twitter son portrait officiel. Voilà donc qui vient renforcer un petit peu le dossier qu'on avait ouvert tout à l'heure. On salue l'invité de la séquence interview, Guillaume Kérou. Bonjour.
Bonjour.
Chef d'entreprise, auteur au Cherche Midi d'un livre intitulé « Tous indépendants ». Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots, avant qu'on vous retrouve tout à l'heure, de la manière dont cette réforme du Code du travail s'enclenche ?
Moi, je suis un entrepreneur, donc moi je crée les emplois. Voilà, en 10 ans, j'ai créé 10 000 emplois qui sont très proches de ce que je décris aujourd'hui dans mon livre « Tous indépendants ». Ce sont des nouvelles formes d'emplois qui sortent un peu de ces carcans du Code du travail.
Donnez-nous un exemple, parce que pour qu'on comprenne bien de quel emploi vous parlez.
Je parle de tous ces emplois qu'on qualifie de non salariés. Aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes en France qui sont répertoriées un peu, par l'INSEE. On a d'un autre côté, on a près de 15 millions de Français qui ont toutes les caractéristiques de travailleurs indépendants de par leur autonomie. Et puis au milieu de ça, quand on sonde les Français, on a près de 8 millions de Français qui se définissent comme des travailleurs indépendants. Et moi, là où je suis quand même assez...
Donc ça ne vous concerne pas, toutes ces lois du travail ?
Si, là où je suis, là je fais attention, c'est effectivement dans les 50 dernières années, toutes les lois qui ont été votées en faveur de la réforme du Code du travail ont, à mon sens, détruit plus d'emplois et d'entreprises qu'elles n'en ont créé. Et aujourd'hui, on est assis sur un formidable gisement. C'est tous ces Français qui travaillent. Je veux dire, contrairement aux idées reçues, les Français ne sont pas des feignants. On est parmi les plus créatifs au monde. N'oublions pas, dans toutes ces réformes qui vont être mises en place, qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise moyen... c'est quelqu'un qui est de plus en plus jeune et qui a vocation à créer énormément d'emplois. On a le phénomène d'ubérisation, auquel moi, ce que je propose, c'est de la protection sociale pour ces nouveaux travailleurs. Et c'est plus ça qui m'intéresse, à la limite, des lois qui vont faciliter le licenciement. Je ne suis pas sûr que ça facilite quoi que ce soit au niveau de la création d'activités dans notre pays.
Merci beaucoup Guillaume Quirou. On vous retrouve tout à l'heure avec Jean-Marc Chardon. Donc pour la séquence interview, on va passer à l'actualité à l'étranger maintenant avec les nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis qui sont prévues par le fameux décret anti-immigration de Donald Trump qui entre en vigueur aujourd'hui. Ce décret, il y a un certain flou qui règne encore sur son application. Alors, bon, le principe général, c'est que l'administration américaine va exiger des ressortissants de 6 pays principalement musulmans et aussi de tous les réfugiés qui sollicitent un droit d'entrée, un visa d'entrée aux États-Unis, qu'ils justifient donc de la présence sur le sol américain d'un membre proche de leur famille ou bien des liens étroits avec une entreprise. Nadine Epstein, c'est donc quand même une partie de ces décrets Trump qui s'appliquent effectivement aujourd'hui.
Oui, ce qui est autorisé par les 9 sages pour l'instant, en attendant l'examen du décret anti-immigration en octobre, c'est que le décret qui interdisait aux citoyens de 6 pays, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, d'entrer aux USA, s'applique désormais, je cite, aux étrangers qui n'auraient pas de relation de bonne foi avec quelqu'un aux États-Unis. Ce qui veut dire que les autorités américaines refuseront l'accès à leur pays à toute personne de ces 6 pays inconnus en Amérique. Il faut désormais qu'il y ait un lien familial, mais proche et direct, frère, sœur, femme, époux, mais pas grands-parents, tante ou nièce. Concernant une entreprise, une université par exemple, il doit être établi un lien formel, documenté, pour prouver qu'il ne s'agit pas d'échapper au décret. Ces nouvelles mesures apparaissent un peu comme une victoire pour Donald Trump. Les plus hauts magistrats du pays ont donc accepté qu'une partie du décret soit mise en application, ce qui pourrait donner au président américain une possibilité d'obtenir une victoire judiciaire au bout du compte. D'ailleurs, le président américain a aussitôt parlé de victoire pour la sécurité nationale des États-Unis. En tant que président, je ne peux laisser rentrer dans mon pays des gens qui nous veulent du mal. Je veux des gens qui peuvent aimer les États-Unis et tous ses citoyens et qui travailleront dur et seront productifs, a-t-il indiqué dans un communiqué. De son côté, l'Union américaine pour les libertés civiles, une ONG de défense des droits de l'homme, a elle réagi en donnant rendez-vous à Donald Trump devant la justice. L'interdiction d'entrée aux musulmans viole le principe constitutionnel fondamental selon lequel le gouvernement ne peut favoriser ou agir de façon discriminatoire à l'encontre d'une religion, a réagi l'un des avocats de cette association.
Merci Nadine Epstein. L'armée irakienne qui annonce s'être emparée ce matin du site de la grande mosquée Al-Nouri dans la vieille ville de Mossoul. C'est la même où le chef du groupe djihadiste État islamique Abu Bakr al-Baghdadi avait proclamé un califat le 4 juillet 2014, il y a donc presque 3 ans. Leur état mythique est tombé, déclare ainsi à la télévision nationale irakienne le porte-parole de l'armée irakienne. Où l'on reparle maintenant du rôle de la France au Rwanda pendant la période du génocide. 3 associations annoncent qu'elles déposent une plainte avec constitution de partie civile visant la banque BNP Paribas pour complicité de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les associations qui accusent donc le groupe bancaire d'avoir permis le financement de l'achat de 80 tonnes d'armes qui auraient servi à la perpétration du génocide, alors que la banque ne pouvait douter des intentions génocidaires des autorités du pays pour qui elle a autorisé donc le transfert de fonds. C'était en juin 1994. Benoît Colomba, bonjour.
Bonjour.
De la cellule d'investigation de Radio France. C'est une information donc que vous rendez publique ce matin sur nos antennes.
Oui, alors ce qui est en cause en fait dans cette plainte, c'est le transfert d'$1,3 million qui aurait été effectué par la BNP à la demande de la Banque Nationale du Rwanda sur le compte d'un intermédiaire sud-africain, un intermédiaire au cœur d'une vente d'armes orchestrée par l'un des cerveaux du génocide, le colonel Bagosora. Nous sommes en juin 94, c'est-à-dire 2 mois après le début des massacres. 80 tonnes d'armes, effectivement, auraient ainsi été transportées par avion depuis les Seychelles jusqu'à Goma, au Zaïre, puis côté rwandais, alors qu'il y avait un embargo de l'ONU sur les armes. Pour la responsable de l'ONG Sherpa, Marie-Laure Guislain, la banque française pouvait difficilement ignorer à quoi risquait de servir cet argent.
D'autres banques comme la banque Bruxelles-Lambert avaient été sollicitées par le Rwanda et avaient gelé, eux, les fonds en disant qu'il était impossible d'ignorer à l'époque que le Rwanda cherchait à financer les armes et qu'aucune banque ne pouvait l'ignorer. Donc, d'après nos éléments, les témoignages et les rapports, la BNP aurait eu nécessairement connaissance que ce transfert de fonds allait contribuer au génocide, à l'achat de ces armes.
Et contacté BNP Paribas explique que, compte tenu de la gravité des faits, la banque ne dispose pas pour le moment des éléments suffisants pour réagir à ce dépôt de plainte.
Alors, il faut ajouter qu'une deuxième plainte pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité a aussi été déposée, Benoît.
Oui, plainte déposée par l'association Survie, toujours concernant les livraisons d'armes au Rwanda à l'époque. Plainte qui vise cette fois les responsables politiques et militaires français en poste à l'époque et qui réfutent eux toute responsabilité. Une première plainte avait été classée sans suite fin 2016, cette fois en se constituant partie civile. L'association espère que la justice pourra enquêter, comme l'explique le porte-parole de Survie, Thomas Borrell.
On a des institutions qui ont gravement dysfonctionné en 1994 et qui sont aujourd'hui à peu près toujours les mêmes. Ce qu'on vise à travers cette plainte, c'est l'aveuglement d'une politique africaine de la France. C'est le soutien au pire régime, un régime qui bascule vers le génocide. Les responsables politiques sont informés, mais ne veulent pas en tenir compte. Ils maintiennent un soutien à un régime qui s'apprête à commettre le génocide, puis qui commet le génocide.
Voilà, autant d'éléments qui rejoignent les révélations du journaliste Patrick de Saint-Exupéry dans le dernier numéro de la revue 21, selon lesquels Paris aurait réarmé les génocidaires.
Merci beaucoup Benoît Colomba. La séquence interview, donc on retrouve notre invité Guillaume Kérou, interrogé par Jean-Marc Chardon.
Bonjour Guillaume Kérou.
Bonjour. Alors, Jean-Marc.
Créer 1 million d'emplois, c'est possible, dites-vous. Ça suppose à vous lire de réinventer le travail, enfin une autre forme de travail. Votre livre, Tous indépendants, bien, il se pose comme un geste de défense des indépendants. Ça, on l'a bien compris. Vous êtes d'ailleurs un pionnier du portage salarial avec votre société Didaxis. Mais dites-moi, vous avez une population très hétéroclite. Quoi de commun entre l'avocat, le coiffeur, le chauffeur de taxi Uber, le consultant, l'auxiliaire de vie, tout ça, ce sont des indépendants.
Ce sont des indépendants qui sont sortis du modèle dominant, sachant que le salariat aujourd'hui représente 90% de la population active française, y compris nos hommes politiques, nos grands patrons, un certain nombre de patrons d'entreprises sont des salariés. Donc aujourd'hui, effectivement, pour moi, le travail indépendant, c'est un marché, c'est un gisement pour le marché français qui se cherche avec 6,5 millions de demandeurs d'emploi. Et partout dans le monde et chez nos voisins européens, on a ce travail indépendant qui explose. Et en France, on a du mal à décoller des 10% de la population active. Et dans ce livre, moi, je reprends un certain nombre de dispositifs qui existent de par le monde et j'essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en France, même si avec un certain bémol, puisque le travail indépendant aujourd'hui, quand on sonde les Français, représente près d'un quart des actifs qui ont une activité indépendante. Qui se définissent comme travailleurs indépendants. Et c'est là où le bât blesse, c'est qu'en France, on est dans les cases. On a un RSI d'un côté, si je schématise, qui gère des indépendants et ça fonctionne pas terriblement. On a une baisse significative du nombre d'indépendants depuis maintenant 30 ans. On avait quasiment 20% de la population active il y a de ça un peu plus de 30 ans. Historiquement, le modèle français était un modèle de non-salariés, donc de travailleurs indépendants, avec majoritairement des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Et aujourd'hui, on redémarre, après avoir touché le fond en 2002, où on avait une infime partie de la population active qui exerçait en tant qu'indépendant. On peut noter effectivement la création effectivement le 1er janvier 2009 du statut d'auto-entrepreneur qui a changé et bouleversé complètement le paysage des indépendants avec près de 1 100 000 Français qui se sont lancés comme indépendants.
Est-ce que Tous indépendants, c'est vraiment un programme qui n'a pas d'inconvénient aussi? Parce qu'après tout, le salariat en soi n'est pas non plus un mal, ne serait-ce que pour une sorte de lien, de collectivité qui travaille.
Et complètement, moi je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des équilibres à retrouver. On est aujourd'hui, c'est soit blanc, soit noir, soit on est indépendant, soit on est salarié. Moi, je pense que, et on le voit là avec un certain nombre de mesures et de réformes qui vont être mises en place, concernant les travailleurs indépendants notamment, qu'on va essayer de donner à tous ces travailleurs de cette nouvelle économie, parce que ces indépendants, pourquoi on les décrit, c'est l'ubérisation, les plateformes, qui au passage ont créé 450 000 emplois en l'espace de 5 ans. Donc, comment on donne à ces nouveaux travailleurs de la protection sociale, des prestations qui leur permet de développer leur activité de manière pérenne avec la protection sociale
de nos
salariés.
C'est ce que vous avez fait dans votre livre. Dernière question, Jean-Marc Chardin. Oui.
Donc, il faut créer un statut. Hein, il faudrait créer un statut des indépendants. Ce serait lequel ? Ça passe par quoi ? Vous parlez de Small Business Act, vous parlez également de guichet unique, mais il y a pas mal de réformes que vous attendez, que vous prenez.
Alors, plusieurs réformes, mais l'idée, c'est de donner à ces nouveaux travailleurs un maximum de protection, un maximum aussi de filets de sécurité, en permettant aux travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, passer d'un statut à un autre. Et mon idée, c'est d'harmoniser l'ensemble des protections sociales, à la fois des salariés et des indépendants, pour permettre peut-être demain d'arriver vers un statut plus général du travailleur, de l'actif, qui favorise l'activité professionnelle et non pas le salariat d'un côté et ou l'indépendance de l'autre, et puis de reprendre plaisir au travail. Et les indépendants, autant vous le dire, ce sont des gens qui se font plaisir dans leur travail quand même, voilà, globalement, plus qu'ils ne souffrent, tel qu'on l'a pu le décrire avec certaines plateformes.
Voilà, c'est comme à Radio France donc. Merci beaucoup. Merci Guillaume Quéroux, merci Jean-Marc Chardon. Je rappelle le titre de ce livre, Tous indépendants, c'est aux éditions du Cherche Midi. Un régime d'ouest avec averse reste actif sur la France aujourd'hui, nous dit Météo France. Le pourtour méditerranéen reste à l'écart des pluies, mais le ciel reste encore voilé. En général, température 18 à 29 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Tarache Léguel.